Docteur Marc Roussier, Laure Chambon et Alexandra Chambry.
Vous êtes tous trois dans le service de soins palliatifs à l'hôpital Nord de Saint-Étienne. Et vous devez nous dire un petit peu qu'en est-il de la joie des soignants et des bénévoles dans votre service. Qui prend la parole en premier? Vous avez décidé peut-être. Alexandra et Laure, oui. En duo?
Oui.
À vous la parole.
Alors bonjour à toutes et à tous. Merci tout d'abord à l'association Jalmalve et particulièrement à l'équipe de Saint-Étienne de nous avoir conviés à ce 34e congrès national. Nous sommes Laure et Alexandra, soignantes au sein de l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Nord Saint-Priant-en-Jarret. Alexandra exerce son métier d'aide-soignante depuis 24 ans, 22 ans au sein de l'unité. Pour ma part, infirmière depuis 2019, j'ai rejoint cette unité en 2022. Pour toutes les deux, et plus largement pour l'ensemble de notre équipe, c'est un choix de travailler en soins palliatifs. Nous reviendrons sur notre parcours un petit peu plus tard. Il nous a paru logique de préparer cette intervention ensemble, parce que dans notre quotidien, nous travaillons tout le temps en binôme, donc infirmiers et soignants, et nous nous connaissons donc très bien, au-delà de notre travail réciproque, respectif. Auprès de nos proches ou de nos amis, lorsqu'on évoque que l'on travaille en soins palliatifs, et ça a déjà été dit dans les précédentes interventions, les réactions sont souvent les mêmes. « Oh là là, ma pauvre, quel courage !»« Oh, comme ça doit être difficile, tu dois voir des morts tous les jours !» Ou encore, je ne pourrai jamais faire ça. Les représentations des soins palliatifs sont très nombreuses. Pour certaines, elles sont vraies. Pour d'autres, biaisées, voire fausses. Aujourd'hui, en lien avec le thème du congrès qui est la joie, nous allons donc essayer d'apporter un éclairage sur notre quotidien, sur ce qu'il se vit au sein de l'unité, et tout particulièrement sur les temps où les émotions positives, dont la joie, fait partie. Pas facile, vous nous direz. En effet, la mort est quand même bien présente en soins palliatifs, avec la douleur, les souffrances qui l'accompagnent, mais la vie également. Et qui dit vie, dit échange, dit relation, avec les patients bien sûr, mais aussi avec leurs proches, avec nos collègues.
En préparant cet exposé, nous avons pris conscience combien il est difficile de retranscrire, de témoigner tout ce qui se vit au sein des accompagnements, de tous ces liens tissés, ce qui est dit et ce qui ne l'est pas, ce qui est de l'ordre de la perception, toutes ces expériences de vie partagées. Nous sommes une équipe, mais chacune des situations vécues est perçue et intériorisée de manière très singulière. Nous avons choisi de le faire à travers quelques témoignages et anecdotes qui nous amènent à ressentir ou à engendrer de nombreuses émotions. Ces épisodes de vie sont simples et nous vous les présentons en toute humilité et avec toute la délicatesse et la pudeur de ce que peuvent traverser nos patients et leurs proches dans cette période d'extrême fragilité. Comme nous l'évoquions en ce début de partage, c'est par choix que nous avons postulé en unité de soins palliatifs. Notre entourage a parfois du mal à comprendre pourquoi nous aimions tant travailler en soins palliatifs, un service au sein duquel la mort est particulièrement présente. Pour moi, Alex, qui travaille en soins palliatifs depuis très longtemps, c'est aussi de me sentir utile en tant que soignante, de me sentir utile en tant qu'humain, apporter du réconfort, apporter de l'énergie aux malades qui n'en ont plus, pour leur permettre de retrouver de la dignité qu'ils pensent avoir perdue. Et c'est également aussi faire un bout de chemin avec eux, même s'il est court ou très court, pour rendre leur fin de vie le plus agréable et le plus serein possible.
Pour ma part, je souhaitais avant tout travailler en unité de soins palliatifs pour prendre soin de l'humain. Pas l'humain réduit à sa pathologie, mais l'humain dans sa globalité. Et ainsi partager avec lui un petit bout de son chemin de vie. Certes, la mort y est souvent présente, et travailler près de la mort, c'est reconnaître qu'elle fait partie de la vie. Cette mort plus ou moins proche donne encore plus de sens à chaque parole et à chaque geste. On pourrait comparer cette présence de la mort à un tableau de paysage. La mort représenterait le fond, le ciel bleu par exemple, présent mais pourtant pas au premier plan. Le reste de l'accompagnement serait semblable à tous les détails du tableau. Ils en apportent le relief, les couleurs et le rendent ainsi unique. Les accompagnements en soins palliatifs sont ainsi d'une grande richesse, car on ne triche pas, on ne fait pas semblant. Oui, en soins palliatifs, on a encore plus conscience de l'importance de la vie, dans toutes les petites choses qu'elle a à nous offrir. Dès lors, il est facile d'imaginer la multitude d'émotions et de sentiments qui surgissent et parfois s'entrechoquent dans le cœur de chacun. Mais regardons d'un peu plus près ce que sont les soins palliatifs.
En France, les soins palliatifs sont définis par la loi du 9 juin 1999 comme étant des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. Leur objectif principal est de chercher à préserver la qualité de vie des patients et de leur famille, bien sûr, face aux conséquences d'une maladie très grave et potentiellement mortelle. Il s'agit de soins actifs et continus, s'appuyant sur un prendre soin, basé sur des compétences, un savoir et une expérience, mais ouvert à la singularité de l'histoire de chacun, de la personne que l'on considère comme vivant et potentiellement désirant jusqu'au bout de sa vie. Pour la suite, nous avons choisi de reprendre les éléments de la définition. Nous les illustrerons par des exemples vécus au sein de notre service, des épisodes de vie sources d'émotions positives telles que la joie, la sérénité, l'apaisement ou la gratitude, des épisodes de vie qui font du bien et des épisodes de vie que nous aimons cultiver. Donc, soulager la douleur fait partie de notre mission. C'est une dimension fondamentale car la douleur est un carcan qui emprisonne la personne dans son corps souffrant et qui altère ses possibilités d'échange avec les soignants, sa famille, ses proches. Au sein de notre service, en complément de thérapeutique médicamenteuse, nous avons la possibilité de proposer à nos patients de la balnéothérapie, que nous voyons sur l'image, de la relaxation par l'approche du chariot Snozelen, que vous voyez également en couleur, qui crée une enveloppe sensorielle rassurante afin de permettre un état de détente et de bien-être. Nous proposons des séances d'ostéopathie, par exemple les mercredis après-midi chez nous, une séance avec la socio-esthéticienne qui propose des touchés, massages relationnels, ou encore de la détente type sophro avec la boîte à morphée que vous voyez dans la deuxième diapo.
Madame D est hospitalisée dans le service. Elle a un sarcome du genou avec des métastases pulmonaires qui, d'une part, l'empêchent de se mobiliser comme elle le souhaiterait, et d'autre part, son source d'angoisse régulière qui se manifeste par la sensation d'étouffer. Madame est très ouverte aux diverses propositions d'accompagnement autres que les médicaments, notamment par l'approche Snozelen. De même, elle écrit, elle dessine, cela l'aide à avancer, nous dit-elle. Madame est hospitalisée dans l'unité depuis quelques semaines déjà. Un soir, elle nous appelle car elle se sent submergée par une angoisse qui l'empêche de respirer. Le chariot de soins Snozelen est en permanence dans sa chambre. On lui propose de l'allumer, ce qu'elle accepte, puis de se concentrer sur notre voix. Calmement, à ses côtés, on l'invite à définir une couleur qui l'apaise et qui va petit à petit prendre place dans son corps. L'accompagnement se poursuit. Elle semble réceptive. La respiration de Madame, très intense, se calme progressivement. Madame D finit par s'apaiser. Elle dit se sentir mieux. Elle sourit même. Ce moment fut très intense, d'une grande réciprocité, un cadeau mutuel. Par ce type d'interaction, les patients se sentent reconnus et valorisés en tant qu'individus, au-delà de la condition médicale. Ce n'est plus la maladie, mais le corps habité qui est remis au centre. Nous sommes surpris de constater combien certains soins non médicamenteux contribuent ainsi au bien-être du patient.
La suite aussi, c'est d'apaiser la souffrance, toutes les souffrances. Nous, ce que nous en parlons, il s'agit d'entendre la souffrance globale de la personne, c'est-à-dire la souffrance physique, psychique, relationnelle, sociale, existentielle. Prendre soin est alors être attentif à toutes ces dimensions. Par exemple, un patient est hospitalisé depuis son domicile car la majoration de sa fatigue ne lui permet plus d'y rester seul. Son épouse vient de le quitter et il semblerait qu'elle use de manière conséquente la carte bleue de monsieur, le plaçant dans une situation financière très difficile. À son arrivée, monsieur est donc très très inquiet, n'arrive pas à contacter personne pour l'aider. Cette inquiétude occupe toute sa place, tout son mental. Il est difficile pour lui d'aborder d'autres sujets. Rapidement, nous essayons de le mettre en contact avec divers services pour que ce dernier fasse le nécessaire pour protéger ses finances et sa santé mentale, du coup. Ce dernier peut alors s'autoriser enfin à penser à lui. Donc entendre, percevoir, accompagner ce que la personne exprime, verbalement ou non, ses difficultés, ses doutes, ses interrogations, parfois ses ambivalences et ses désirs. Travailler en soins palliatifs, ce n'est pas supprimer une souffrance, mais apporter de la douceur en toute humilité, être avec, et non pas à la place de l'autre, dans le respect de ce qu'il vit, de son cheminement et de son histoire. Il s'agit donc d'oser prendre le risque de rentrer dans une relation avec l'autre, avec tout ce que cela implique, notamment au niveau des affects et des limites personnelles.
Monsieur C est arrivé dans le service sur une fin de parcours d'une maladie grave évolutive avec des métastases cérébrales qui entraînaient des troubles cognitifs. Il restait cependant dans l'échange et relativement autonome à son entrée. Lors de l'administration des traitements, on peut remarquer rapidement que c'est une source d'échange avec ce patient. En effet, monsieur a exercé de nombreuses années comme médecin et on le sent très imprégné par sa profession. Chaque jour, il conserve d'ailleurs un automatisme, celui de ranger son stylo dans la poche de sa chemise. De même, épicurien, nous lui préparons régulièrement des canapés ou autres petits plats, agrémentés par une coupe de champagne apportée par sa famille. Il prend plaisir à partager ce temps-là avec ses proches. Il en est de même pour Madame B, qui apprécie son petit verre de Chivas chaque jour à 18h30. Ou encore, Monsieur M, qui aime regarder les fleurs apportées par sa famille, ces fleurs qui lui rappellent tellement son jardin. Toute relation fait donc émerger des émotions, diverses. Toutes sont pourtant légitimes. Pourquoi s'interdire de rire avec un patient ? L'approche de la mort interdirait-elle de ressentir des émotions positives, telles que la joie ? Nous en parlons depuis hier. Au cours d'un soin, il n'est pas rare d'entonner un refrain connu et apprécié par un patient. Pourquoi pas ? De rire de nos fausses notes ou d'échanger sur un sujet de société. Les divers échanges rappellent à nos patients qu'ils continuent de s'inscrire sur leur chemin de vie. Par le chant, mais pas que, nous aidons ainsi le patient à se replacer dans son histoire de vie, toute son histoire de vie.
Sauvegarder la dignité est beaucoup nommée dans les débats actuels, rappelons ce que c'est. La dignité humaine est le principe éthique le plus fondamental, il est repris dans différentes constitutions. Kant disait que toute personne existe comme une fin en elle-même et non pas simplement comme un moyen dont on pourrait user à son gré.
Cette dignité, elle est donc inhérente au simple fait d'être humain. Elle ne se perd jamais, y compris lorsqu'on se trouve dans une fragilité extrême, comme la maladie. Elle n'est en aucun cas liée avec un statut social ou à la performance physique ou même intellectuelle. La dignité suppose donc une vision intégrale de la personne. Cependant, on peut y porter atteinte. Et la perception de notre propre dignité implique toujours le regard et la présence des autres. Ainsi, la dignité humaine implique le respect et la protection envers chaque personne, comme un être libre et doté d'une histoire toujours unique. Pour Harvey Shoshinov, La dignité en soins palliatifs, c'est la façon dont je me vois dans vos yeux. Par notre regard, par notre comportement, nous accompagnons les patients dans une expérience humaine chaleureuse, réconfortante et attentive, dans le souci de ne pas le soumettre à un excès de bienveillance qui pourrait devenir alors malveillant.
Physiquement aussi, d'abord par le soin au corps, nous parlons et touchons nos patients jusqu'au bout. Nous les enveloppons lorsque nous les mobilisons pour les sécuriser. Dans la mesure du possible, nous privilégions le port de vêtements personnels, l'utilisation de leurs parfums, le rasage, le soin des ongles, les shampoings, les coupes de cheveux, les couleurs, dans le respect des souhaits et des habitudes du patient. De même, comme nous l'évoquions plus haut, nous remettons les plaisirs de la table au cœur de nos accompagnements. C'est le patient qui choisit ses repas à l'heure à laquelle il souhaite les prendre. Nous prenons soin de présenter chaque aliment et préparer les plateaux de manière attractive et proposer différentes boissons. Un temps de partage est également proposé chaque semaine par l'intermédiaire de la médiation canine, Camille et sa chienne Luna, qui viennent à la rencontre des patients qui le souhaitent, bien sûr. J'ai eu la chance d'être témoin de ces moments de partage d'une extrême richesse. Justine, par exemple, une de mes collègues aides-soignantes, témoigne de la rencontre entre Luna et Madame F, 72 ans, atteinte de la maladie de Charcot. Lorsque Madame est hospitalisée, elle vient d'apprendre sa maladie, qui évolue très très rapidement. Au moment de la séance, Madame est tétraplégique, avec le maintien quand même des sensations au niveau des mains. La communication verbale est de plus en plus difficile. On communique par des questions fermées auxquelles elle peut répondre avec un léger hochement de tête, un léger mouvement de lèvres ou un clignement de yeux. Elle est lucide et cohérente. La séance de médiation canine dure environ 40 minutes dans la chambre de madame. Donc il y a Camille, la maître chien, et sa chienne Luna. Il y a également un médecin stagiaire des soins palliatifs et le compagnon de madame. Justine, l'aide-soignante, qui connaît très bien Madame, car elle l'accompagne depuis son arrivée dans le service il y a plusieurs semaines. Et cette médiation canine est proposée à la patiente, qui accepte bien volontiers, car elle adore les chiens. La séance donc débute. Luna est installée sur une table à hauteur du lit, à côté de la patiente. Un premier contact se fait. Elle accompagne les gestes de Madame pour qu'elle puisse toucher la chienne. Et au cours de la séance, la chienne avance progressivement vers la patiente. Elle pose sa tête sur ses cuisses. Elles échangent toutes les deux des regards. Madame F sourit, puis verse une larme. Un vrai contact se noue, une connexion se crée vraiment. Luna s'endort de temps en temps. Madame F prononce le prénom Luna, chose qu'elle n'avait pas faite depuis très longtemps. Elle parvient à la caresser avec son pouce, à la ressentir. Elle regarde souvent aussi son compagnon pour lui exprimer sa joie. Justine lui laisse sa place pour qu'ils puissent partager ce moment tous les deux. Depuis le début du séjour, il était très difficile pour nous, les soignants, et pour son entourage, de faire sourire Madame, qui était très triste de sa maladie, et de capter un regard. Cette séance a permis donc à la patiente, à Madame, de retrouver son corps, de se rappeler plein de sensations, plein de souvenirs. Donc vous imaginez que c'était un moment très très riche et très fort en émotions pour tous. C'était un moment suspendu.
Que reste-t-il de soi lorsque la maladie grave nous frappe et nous transforme? Regardez l'autre comme une personne unique et singulière, quel que soit son comportement, sa situation, nous met en joie, car nous préservons ainsi cette part d'humanité qui nous rassemble tous autour du mystère de la fin de vie. Soutenir les proches. Être attentif envers les proches et les soutenir est un axe important des soins palliatifs. Les conséquences de la fin de vie, précédées pour certains de longues maladies, sont une épreuve pour l'entourage du patient. C'est aussi l'occasion pour les proches qui ont tenu le rôle d'aidant, voire de soignant, de retrouver leur place. Chaque histoire est unique et respecter l'histoire et la culture de chaque famille est très important dans notre accompagnement. Je me souviens de Madame, transportée dans notre service un matin à 8 heures par l'équipe du SAMU. Elle arrive inconsciente suite à un AVC massif et dans un état d'une grande fragilité. Elle décédera 2 heures après son arrivée. Sur ce laps de temps très court, on pourrait croire qu'aucune forme de lien ou aucun accompagnement n'a pu se mettre en place. Pourtant, son mari me demande, après le décès, si le corps peut être conservé dans le service jusqu'à ce que les pompes funèbres viennent reprendre le relais directement, car il ne supporterait pas l'idée de la savoir en chambre mortuaire. Mais le protocole de l'institution voudrait que tout patient décédé passe par le service mortuaire de l'hôpital. Malgré tout, après quelques appels téléphoniques et la bonne volonté de chacun, il a été possible de répondre positivement à cette unique demande de l'époux de Madame. Face à la violence de la mort, notre mission de soignant est de maintenir, dans ce moment brutal, une relation d'humanité, et celle-ci peut prendre de multiples formes. Pour nous aider aussi dans le service, nous avons nos 2 bénévoles Jalmal, Françoise, René, qui viennent régulièrement. Par leurs visites, chaque semaine, elles créent un lien encore différent avec les patients et leurs proches, ce lien dont nous parlions tout à l'heure. Une présence, une écoute, une attention singulière qui apporte un apaisement chez chacun, chez le patient, chez ses proches. Pour nous, équipe, l'accompagnement des bénévoles est un réel soutien, très important. Merci pour leur présence.
Suite au séjour des patients, nous recevons régulièrement des témoignages de la part des proches. Les paroles nous touchent beaucoup. Nous vous en faisons partager quelques-unes. Un simple mot pour vous remercier d'avoir accompagné F dans ce qui a été ces derniers moments. Et merci tout particulièrement à ce grand infirmier qui, au travers d'une main sur mon épaule, a pu trouver les mots sans parler et m'accompagner dans ce dernier au revoir. Un autre mot aussi, à toute l'équipe, personnel d'entretien, aide-soignants, infirmiers et médecins, je tenais à vous remercier. Merci de nous avoir accueillis dans votre service il y a 1 mois et demi déjà. Merci d'avoir pris soin du corps et de l'âme de mon papa pour qu'il puisse partir en paix. Merci pour votre bienveillance et votre gentillesse à chaque soin que vous lui apportiez. Merci d'avoir permis à maman de délaisser son rôle d'aidante pour retrouver sa place d'épouse dans ses derniers instants. Merci de nous avoir permis de faire notre chemin intérieur auprès de mon papa. Vous avez su prendre soin de nous trois. Et cette dernière carte de Bretagne qui montre un phare au milieu de la mer déchaînée, au dos de laquelle il est écrit. Et oui, c'est bien l'image que je garde de votre équipe, calme et solide face à la tempête. C'est ce qu'on ne perçoit pas toutefois, mais votre touche d'humour au quotidien et votre légèreté qui fait du bien dans ces moments si lourds pour la famille et les proches. Je garde un merveilleux souvenir de vous tous. Encore merci pour notre Ben, qui peut désormais se lever et courir voir le derby. Donc je vous explique, nous avons accompagné Ben, un monsieur qui est venu plusieurs séjours chez nous et qui est resté quelques temps pour suivre sa maladie de Charcot, dont il est décédé.
Nous allons terminer notre intervention sur le témoignage de Monsieur D, hospitalisé dans le service à sa demande durant environ 3 semaines, pour lui permettre, ainsi qu'à son épouse, de souffler un peu sur leur quotidien à domicile. Nous écoutons son témoignage.
Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de l'équipe mobile de soins palliatifs et des soins palliatifs ?
Alors, de l'équipe mobile, non. Des soins palliatifs par personne interposée, et c'était pas ici d'ailleurs, c'était à Nancy, et j'en avais une image, pas de mouroir parce que c'est péjoratif, mais d'accompagnement vers la mort, quoi. En fait, je m'aperçois que c'est pas tout à fait ça.
Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez des soins palliatifs alors ?
Ah, déjà, c'est... Oui. C'est sûr. Déjà, parce que il y a un accompagnement qui est assez extraordinaire, un taux d'encadrement largement supérieur, d'après ce qu'on me dit, aux autres services. Il y a, comment dirais-je, une empathie de la part du personnel soignant non pas qui m'étonne, mais qui est de tous les instants et de toutes les personnes. Il y a une qualité, entre guillemets, d'hôtellerie qui me surprend aussi. Franchement, je n'imaginais pas qu'un service de l'hôpital qui est si souvent décrié puisse atteindre ce niveau d'excellence. C'est peut-être un peu... Non, oui, d'excellence, quoi. Ouais.
Et quant à l'équipe mobile, qu'est-ce que ça vous a apporté quelque chose?
Alors, l'équipe mobile, elle m'a beaucoup apporté puisque je suis là aujourd'hui, ne serait-ce que ça. Et puis, ils ont éclairé ma lanterne sur ce qu'ils faisaient, comment ils le faisaient. Ils ont répondu à un certain nombre d'interrogations qu'on a forcément quand on est atteint de la maladie que j'ai. Et c'est pour ça que je me suis permis d'appeler ici pour voir quelles étaient les solutions pour me permettre de souffler, on va dire, et puis aussi à mon épouse qui était en difficulté.
Comment avez-vous réagi quand on vous a proposé de rencontrer une équipe de soins palliatifs?
L'équipe mobile, donc. Oui, hein. Oui. Bah, comme d'habitude, c'est-à-dire que tout ce que je n'y connais pas, je suis curieux de voir et de me faire une opinion. En plus, le médecin qui était avec les deux infirmières est un homme plein d'humanité, plein d'empathie. Si j'étais un peu, je ne sais pas comment dire, il vend bien son affaire, quoi, je veux dire.
Donc, oui, il n'y a pas eu d'appréhension particulière par rapport aux mots palliatifs qui peuvent...
Non, non, alors c'est la grande question qu'on me pose, mes angoisses, mes... Non, moi, je fais confiance aux gens qui sont compétents. C'est les gens incompétents que je crains, les amateurs.
D'accord. Donc, le service de soins palliatifs a répondu finalement à vos besoins?
Complètement, complètement. Je vous dis, puis quand on reste aussi longtemps que je le fais, puisque je vais encore aussi rester une semaine, il y a des liens qui se mettent en place, je connais un peu de leur vie, je demande des nouvelles d'une amie, d'un concours de cheval, que sais-je encore, enfin des éléments de leur vie hors du service. Et je crois qu'il y a un climat de confiance, de sympathie, d'empathie, oui, c'est ça, qui se tisse. Voilà.
Donc, vous êtes là prêt à rentrer chez vous, c'est ça? Et si un jour, de nouveau, vous avez besoin de souffler,
Alors, ça sera sans hésitation que je téléphonerai en priorité. Ce que je voudrais dire aussi, ce qui est étonnant, c'est la réactivité et la... complémentarité de l'équipe soignante. J'ai demandé à avoir une assistante sociale le mercredi après-midi. Elle était là le jeudi et le dossier qu'elle a monté était parti le vendredi. Donc moi, je suis ébahi, enfin étonné qu'une telle machine fonctionne. Alors, il y a sûrement parfois des difficultés, il ne faut pas se leurrer, mais moi, cette organisation-là s'est réglée comme un coucou suisse. Et les gens pensaient, j'ai des ergothérapeutes, une psy qui passe, il y a une danseuse qui est passée. Enfin, en dehors de l'équipe soignante traditionnelle, on va dire, il y a tout un tas de choses qui sont faites pour qu'on soit bien pris en charge et qu'on apprécie le repas est servi dans de la vaisselle, par exemple. Ce n'est pas des barquettes plastiques. Le dimanche, j'ai eu un croissant. Ce n'est pas bien bon pour ce que j'ai, mais quand même. Vous voyez, ce sont des attentions qui font que on voit la différence, quoi, et que moi, j'apprécie.
Moi, je n'ai pas d'autres questions. Si vous avez d'autres choses à me dire,
j'espère que j'ai été vendeur.
Mais vous pouvez aussi critiquer. On accepte les critiques.
Non, non, je ne vois pas pourquoi.
Au sein du service, comme dans tout lieu de travail, tout n'est pas idéal. Malgré tout, nous favorisons tout ce qui peut faire du lien avec les patients et leurs proches. Les émotions et sentiments s'expriment sous diverses formes.
la détermination, la force et la volonté d'aller jusqu'au bout pour la majorité des patients nous rappellent notre humble place de soignant et replacent le patient au centre, sujet et acteur de son existence. À leur côté, nous nous laissons embarquer dans des relations pleines d'émotions et de désirs, synonymes de plaisir à vivre. Chaque rencontre avec un patient est un partage où l'on reçoit autant, sinon plus, que ce que l'on donne. Et ces rencontres privilégiées, à elles seules, s'inscrivent en nous comme source de joie. Elles continuent à nous construire.
Travailler en soins palliatifs, c'est regarder les personnes que nous accompagnons dans toute leur singularité, toute leur histoire, et se réjouir des moments où ils acceptent de nous inclure dans leur tourbillon de leur vie jusqu'au bout. Oui, nous prenons du plaisir à prendre soin en soins palliatifs. Nous sommes heureuses d'apporter un peu de joie et de faire du bien. Peut-être cela rend-il ce temps de souffrance un peu plus acceptable. La mobilisation de chacun des acteurs du soin, à la fois individuelle et collective, apporte ainsi une réalité quotidienne et d'une grande richesse, au service du patient. Merci à tous.
Voilà, la parole au docteur Marc Roussier. On va voir s'il peut nous vendre bien son service.
Vous avez compris que pour travailler en soins palliatifs, parfois, il faut être marchand de tapis aussi, savoir tout faire. Il y a eu plein de choses très belles et très justes avec lesquelles je suis tout à fait d'accord, qui ont été dites. Je vais peut-être moins faire de présentation avec des illustrations. Je suis désolé, Christine. Christine, c'est une infirmière qui a très longtemps travaillé dans le service, que j'ai croisée juste en rentrant, qui a dit « T'éviteras de partir trop dans les... » Je ne suis pas sûr d'y arriver, Christine. Je te préviens tout de suite. Je vais essayer de théoriser un petit peu tout ce qu'on peut se dire sur la joie, tout en répondant quand même à quelques questions. Vous avez eu ça, là. Il y avait toute une liste de questions que nous, il fallait qu'on travaille. Alors, c'était vachement intéressant ce que vous avez fait, mais juste, je crois qu'on n'a pas tout à fait répondu à la commande. C'est pas grave. Parmi la liste de questions qu'on nous a posées pour essayer de réfléchir, il y en a une qui m'a beaucoup surpris, c'est « Les soignants s'autorisent-ils à ressentir de la joie et à partager cette joie ?» Ça veut dire que si on s'autorisa, il y a quelque chose qui pourrait nous interdire de ressentir de la joie et partager cette joie. Alors, moi, ça m'a fait repenser à ce qu'on fait beaucoup avec quand on reçoit des familles, c'est que plein de familles, en fait, nous disent « Bon, je suis triste, mais dans la chambre, je ne montre rien. Je suis gay, je ne pleure pas devant la personne hospitalisée, etc. » Et nous, la réponse qu'on leur fait toujours, c'est « Mais pourquoi ? Pourquoi vous voulez montrer, faire semblant que tout va bien, alors qu'en fait, vous êtes triste et que souvent, en fait, la personne en face est triste aussi ?» Donc, de pouvoir exprimer des sentiments considérés comme négatifs alors que ces sentiments, ils sont là. Les gens sont tristes, la personne malade est triste, ça paraît normal. Mais je me demande si, en fait, pour nous, les soignants... Alors, quand je veux dire soignants, vous remplacerez très souvent par bénévole, je pense que ça marche aussi. Mais pour nous, les soignants, en fait, il faudrait qu'on soit tout le temps triste. Il faudrait qu'on soit tout le temps sérieux, alors, ce qui est deux choses différentes, parce qu'on peut être sérieusement léger, j'allais dire. Mais il faudrait qu'on soit tout le temps sérieux, tout le temps triste, et qu'on n'aurait pas le droit d'exprimer ce qui n'est jamais que l'autre côté de la même pièce, c'est-à-dire le fait que pour qu'il y ait de la nuit, il faut qu'il y ait du jour, pour qu'il y ait de la tristesse, il faut aussi qu'il y ait de la joie. Et clairement, dans les services de soins palliatifs, nous accompagnons des gens en vie, vous l'avez dit, et les gens en vie, à certains moments, ils sont tristes, et à d'autres moments, ils ont envie de choses plus légères, ils ont envie de joie, et la joie, elle est là. Je vais citer quelqu'un que vous connaissez peut-être, dont on vous a peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle Anne Richard. Et Anne Richard, je ne travaillais pas encore en soins palliatifs, c'était dans ma vie professionnelle d'avant, et j'étais passé dans le service. Et je me vois encore dans le couloir avec Anne Richard, qui était chef de service à l'époque. Et effectivement, ce qui se passait devant nous, ça illustrait bien son propos, c'est-à-dire qu'il y avait des gamins qui couraient dans les couloirs, etc. Et Anne Richard m'avait dit à ce moment-là, « Marc, tu sais, Dans tous les services dans lesquels j'ai travaillé, c'est celui de soins palliatifs dans lequel il y a plus de vie. Ça m'avait semblé un peu bizarre à l'époque. Eh bien, je peux vous dire que tous les jours, je me rappelle qu'elle a raison. Donc, ouais, il y a de la vie en soins palliatifs, et dans la vie, il y a des moments tristes et il y a des moments gais. Donc, obligatoirement, la joie, c'est normal de la ressentir et de la partager. D'autant plus qu'on ne peut pas, de mon point de vue, s'autoriser à ressentir de la joie, parce que, de mon point de vue, la joie, on la ressent, j'allais dire, malgré nous. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de... du geyser, là, du surgissement, là, il y a quelque chose qui sort de temps en temps dans notre pratique, où on se sent joyeux, on se sent bien, et on ne peut pas faire contre ça, quelque chose qui arrive contre nous, donc on ne va pas s'autoriser ou pas s'autoriser, nous ressentons la joie. Et c'est là, je suis désolé, je suis docteur, donc je vais revenir à quelque chose de très docteur, c'est que pour moi, la joie est un symptôme, c'est-à-dire le signe de quelque chose. Le signe qu'il se passe quelque chose en dessous, c'est le signe de quelque chose de plus souterrain. Bah, la question, c'est de savoir, par contre, le symptôme de quoi. Et finalement, peut-être que la joie, ça peut être le symptôme du travail bien fait, le symptôme d'une satisfaction. Il y a quelque chose qui a été satisfait dans nos aspirations personnelles, mais peut-être aussi dans la relation avec l'autre que nous pouvons avoir. Alors, j'ai un peu travaillé par association d'idées pour réfléchir à ce que j'allais vous dire. Et j'ai fait deux associations, un peu de philo. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui ont déjà été abordées hier soir, avec la vraie philosophe hier soir. J'ai pensé à deux notions. C'est la notion du cosmos des Grecs anciens. Le cosmos des Grecs anciens, c'est un agencement de l'univers où chaque chose est à sa place. Et le « chaque chose est à sa place » entraîne une notion d'harmonie. Quand les choses sont à leur place, finalement, c'est harmonieux. Alors, chez les Grecs anciens, le cosmos où chaque chose est à sa place, c'est un état de fait. C'est-à-dire que, globalement, chacun joue dans sa case, mais on ne peut pas y faire grand-chose pour modifier les arrangements du cosmos. Dans le monde moderne, on a quand même un petit peu tendance à être plus proactif. On a quand même envie que nos actions changent les choses et modifient ce qui se passe autour. Alors, est-ce que nos petites actions d'humbles soignants, j'ai beaucoup aimé la réflexion, n'oubliez pas, on parlait tout à l'heure du sens des mots, la définition des mots, j'aime beaucoup ça, comme vous pouvez le voir. Humble, l'humilité et humain, c'est la même racine étymologique, hein, c'est l'humus, la terre. Donc, j'ai tendance à penser que plus nous sommes humbles, plus nous sommes humains, mais bon. Qu'est-ce que je disais ? Est-ce que notre petite action en tant que petit soignant peut changer le monde ? Peut-être pas l'objectif du jour. Par contre, sans vouloir atteindre une espèce d'harmonie de l'univers, on peut peut-être essayer de réfléchir à l'harmonie de notre petit monde à nous, de celui sur lequel on peut un peu jouer, quoi. Et mais j'ai quand même l'impression que quand il y a de la joie, dans notre vie quotidienne, n'importe quand, mais particulièrement dans notre pratique, nous en tant que professionnels de soins palliatifs et vous en tant que bénévoles dans tous les endroits où vous êtes, c'est peut-être le symptôme qu'à ce moment-là, on est arrivé un petit peu à un état d'harmonie qui dure le temps de la rencontre, peut-être qui ne dure pas longtemps, mais qui est là. Ce qui m'amène à ma deuxième réflexion philosophique, et puis je m'arrêterai là, mais je pense qu'elle a dû vous en parler hier, la philosophe, c'est Spinoza. Voilà, quand même, voilà, on parle de philosophie et de joie, on ne peut pas ne pas parler de Spinoza quand même. Je dois avouer que Spinoza, pour moi, le connatus de Spinoza, Dieu, la nature, machin, etc. Enfin, c'était un gars vachement sérieux pour moi, Spinoza. Et en fait, en travaillant pour cette présentation-là, je me suis rendu compte que Spinoza avait beaucoup réfléchi effectivement sur la joie. Et j'imagine qu'elle vous a déjà dit hier... La joie est le passage de l'homme d'une moindre perfection à une plus grande. Vous l'avez déjà entendu hier soir ? Non ? Eh ben voilà, je vous ai appris un truc sur Spinoza. La joie est le passage de l'homme d'une moindre perfection à une plus grande. Spinoza, il pensait qu'on ressentait de la joie de manière fugace quand on allait vers le un peu mieux. Et moi, ça me parle vraiment, cette notion, encore une fois, dans notre pratique quotidienne, quoi. Il y a la joie quand on se rapproche d'eux, quand on tend. Alors on tend toujours vers, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas. Spinoza disait aussi, la joie n'est pas la perfection elle-même. On ne va pas toucher la perfection. Mais, comme dans les jeux vidéo, vous savez, la joie que vous pouvez. Pour ceux qui jouent aux jeux vidéo. La joie que vous pouvez avoir quand vous finissez un niveau puis vous passez au niveau supérieur. Et ben, il y a peut-être quelque chose de ça dans notre pratique, que ce soit de rencontre ou notre pratique de soignant, c'est de ressentir de la joie quand on sent qu'on va vers le mieux et qu'on tend vers ce qui peut être notre idéal, mais encore une fois, l'idéal, on ne le touche jamais. Donc voilà, la joie, elle est probablement le symptôme de quelque chose qui se passe bien, de quelque chose qui s'est bien passé avant, et de quelque chose qui se passe bien dans, ce qu'on, dans la rencontre qu'on peut avoir. Bon, vous voyez bien que quand je dis ça, en fait, je ne fais que théoriser tout ce qu'on dit à Alex et Laure pendant une demi-heure, quoi. Tout ce qu'elles vous ont montré, tous les exemples qu'elles ont pu vous montrer. Il y a eu, dans ces moments, je vais dire des grands mots, mais dans ces moments de grâce qu'elles ont pu vous présenter, quelque chose qui est de l'ordre quand même de l'harmonie dans ces moments-là, quoi. Enfin, le « oh » que vous avez pu avoir quand vous avez vu la tête du chien sur les photos, quoi, il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. C'est quand même fantastique que ce soit le chien qui amène le plus grand « oh », quoi. Mais c'est bien, c'est sympa. Une petite réflexion de mon point de vue sur la différence entre la joie de la rencontre et la joie dans la rencontre. Je m'explique. La joie de la rencontre, c'est probablement la joie du positionnement personnel qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'il y a de la joie de la rencontre quand, vous savez, quand on frappe à la porte, là. Et puis avant qu'on rentre, avant qu'on nous dise entrer. Je ne sais pas ce que vous en dites, vous, en tant que bénévole, mais moi, en tant que médecin, comme je le dis toujours, c'est pas très élégant, mais c'est un peu ça, j'ai toujours un petit gousier en bas du dos, quoi. Il y a toujours un petit truc qui se passe là. Qu'est-ce qui va se passer? Et je crois qu'il y a de la joie de la rencontre quand on frappe à la porte, si justement il y a un peu d'harmonie dans notre univers personnel, dans notre univers à nous. On sait pourquoi on est là, on sait pourquoi on frappe à la porte, et on est à peu près clair sur nos intentions quand on va rentrer dans la chambre. Même si après, ça se passe toujours différemment, mais ça, c'est autre chose. Et puis, il y a la joie dans la rencontre. C'est-à-dire qu'il y a l'inter-individualité, quoi. Vous avez le bénévole ou le docteur ou l'infirmière ou l'aide-soignante. Et puis, en face, vous avez le ou la patiente. Et puis, vous avez plus ou moins de l'entourage autour. Et là, il y a des choses un peu magiques. Enfin, des choses un peu uniques. Toujours uniques. Des choses qui se passent ou qui ne se passent pas, d'ailleurs. Je veux dire, la joie dans la rencontre, elle n'est pas aussi évidente à chaque fois, mais il me semble que c'est deux notions différentes. Il y a la joie qu'on peut avoir, encore une fois, dans le positionnement qu'on peut avoir. Moi, je suis persuadé que 95% des gens ici, ils sont joyeux d'être bénévoles à Gelmalve. Et il y a, en plus, la joie de chaque rencontre, c'est la joie dans chaque rencontre que vous pouvez avoir. Il me semble que c'est deux niveaux différents qui se complètent et qui se rajoutent, quoi. J'ai le temps. 5 minutes. La joie dans la rencontre, de manière totalement impromptue, quoi. Je vous raconte, puis après j'ai presque fini. Mardi, une patiente qui est hospitalisée depuis quelques jours chez nous, qui jeune de ma génération, donc extrêmement jeune. Qui malheureusement a une maladie grave et très évoluée, qui mardi était vraiment pas bien, agitée, un peu confuse, qui savait pas comment se mettre dans le lit. Enfin voilà, on est passé 2-3 fois. Enfin, les soignants étaient passés régulièrement, l'équipe médicale, on est passé aussi 2-3 fois dans sa chambre. Vraiment, on repasse devant sa chambre, elle gémissait, elle se tournait sur le côté, ça allait pas du tout. Et on rentre de nouveau dans sa chambre et on la réinstalle comme on peut, etc. Et en fait, à ce moment-là, pouf, comme ça, la dame qui était vraiment pas bien, je vous promets, hein, me regarde, puis elle me fait, alors, j'ai fait un effort pour vous, mais en début de semaine, j'avais beaucoup plus de poils sur la figure, elle me fait, mais vous êtes pas rasé, vous, ce matin? Et je lui fais, ben non, je suis désolé, mais moi, pour me raser, il faut que je trouve un rasoir et 10 minutes. Et c'est souvent les 10 minutes les plus difficiles à trouver. Donc là, je ne suis pas rasé, effectivement. Et là, elle tend la main, mais elle n'arrivait pas jusqu'à mon visage. Donc je lui prends la main et elle caresse ma barbe. Elle me fait, ah, mais c'est bon, elle est assez longue pour qu'elle soit douce, ça va. Attendez, c'est pas fini. Et puis elle avait les mains sur mon bras. Et je lui fais, ah, ben, vous avez, en plus, c'est qu'en plus, les poils, j'en ai aussi sur les bras, quoi. Elle me fait, mais c'est normal, ça. Un homme, ça a des poils. Et puis l'avantage, c'est que les poils, quand on en a sur le torse, quand on s'embête, on peut faire des tortillons avec. La madame, 10 minutes avant, est en train de gémir en disant « Je ne sais pas comment je me mettre dans mon lit, que je ne sais pas comment je peux être bien. » Moment de grâce, moment de joie. Alors, soyons honnêtes, l'équipe médicale, on a ri aussi fort que ce que vous venez de faire. Voilà, quoi. Dernière réflexion sur justement les soignants, est-ce qu'ils s'autorisent à ressentir de la joie? Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, vous avez dit que c'est paradoxalement, moi je pense que l'USP est un bon endroit pour ressentir de la joie. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure en disant que l'USP c'est un endroit où on ne triche pas. Les endroits où il se passe des choses compliquées, où la mort rôde, clairement, ce sont des endroits où on ne peut pas tricher. On est... un peu brutal de expression de docteur, mais on est un peu à poil, quoi. Enfin, voilà, quoi. On peut pas faire autrement qu'être ce qu'on est et ressentir les choses qu'on ressent. La notion que moi ça m'amène, c'est vraiment cette notion de le côté enfantin qu'on peut avoir quand on est enfant, hein, le côté naïf. Je vais chercher la définition dans le dictionnaire ce matin pour qu'on sache de quoi on parle. Naïveté, simplicité d'une personne qui exprime naturellement ses sentiments. La naïveté, on l'a quand on est enfant. Et puis on la perd au fur et à mesure qu'on rentre dans l'âge adulte parce qu'il faut montrer une bonne image sociale, parce qu'on ne peut pas rigoler ou dire des blagues avec ses collègues ou son patron aussi facilement que quand on a 8 ans, etc. Enfin voilà. Et moi, je me demande si quand même cette notion de... On laisse un peu les conventions sociales de côté, on retrouve cette naïveté qu'on peut avoir quand on était enfant, justement en fin de vie et dans des situations difficiles. Et justement, quand on peut exprimer simplement et naturellement ses sentiments, c'est comme la meilleure façon de pouvoir exprimer les sentiments négatifs, être triste et pleurer, ou exprimer les sentiments positifs, c'est-à-dire d'être joyeux. Dans ce qu'on peut dans les moments où il y a de la joie. Et puis voilà. Ça me rappelle, et ce sera la dernière réflexion que je ferai, j'ai fait l'association avec, vous savez, Candide, chez Voltaire, Candide. Candide, la dernière phrase de Candide, c'est il faut savoir cultiver son jardin. C'est une minute. C'est bon, j'ai fini dans 45 secondes. Tout va bien. Candide, la dernière phrase, c'est « Il faut savoir cultiver son jardin ». Moi, je pense qu'en fin de vie, on peut apprendre à cultiver son jardin, mais n'oubliez pas que Candide sait cultiver son jardin parce que pendant tout le roman, en fait, il a parcouru le monde et il a vécu des milliards de choses. Première chose. Et puis moi, j'aime beaucoup cette réflexion de Pablo Picasso, et ça sera fini, donc on sera exactement à l'heure. Pablo Picasso, il disait « J'ai mis toute ma vie à savoir dessiner comme un enfant ». Je vous remercie.